RFI, 22h à Paris, 21h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Vive émotion en Israël alors que 4 dépouilles d'otages ont été rendues par le Hamas. À suivre le reportage de notre envoyé spécial Pierre-Olivier sur la place des otages de Tel Aviv. Aux États-Unis, le DOGE, le ministère de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk, décide de réduire le fonds d'aide aux survivants des attaques du 11 septembre, ce qui ne fait pas l'unanimité, y compris au sein des Républicains. Donald Trump fait pression en ce moment pour obtenir, vous le savez, un accord de paix en Ukraine. Le constructeur automobile français Renault commence déjà à penser à un éventuel retour en Russie. Journée de deuil en Israël alors que les 4 corps remis par le Hamas sont en train d'être autopsiés à l'Institut médico-légal de Tel Aviv pour confirmer qu'il s'agit bien notamment de la mère Bibas et de ses 2 enfants enlevés par le Hamas le 7 octobre. Ils avaient 8 mois et 4 ans. Sur la place des otages de Tel Aviv au moment de la remise des cercueils à la Croix-Rouge, l'émotion était palpable. Le reportage de Pierre-Olivier.
L'écran géant qui retransmet habituellement les retrouvailles des otages avec leurs familles est resté noir ce jeudi. Mais les images des 4 cercueils remis par le Hamas circulent sur les téléphones et ravivent les douleurs.
Moi j'ai la gorge qui serre, j'arrive pas à parler, c'est pas normal, on peut pas tuer des enfants comme ça.
À quelques mètres, ce grand-père de 3 petits-enfants a accroché une peluche d'ourson sur un drapeau israélien.
Il y a un mois, c'était l'anniversaire de Kfir. Et aujourd'hui, il revient dans un cercueil. Je ne suis pas en colère, je suis triste. Que ressentir d'autre quand on voit le cercueil d'un enfant ?
Sur les images, on voit au-dessus des cercueils une affiche installée par le Hamas. Dans une tache de sang, la famille Bibas souriante.
C'était sordide, comme tout le reste. Il y a une image très forte, je trouve, c'est que le temps que les cercueils arrivent jusqu'en Israël, il faisait un temps atroce. Les cercueils sont arrivés sous la pluie et arrivés sur la terre d'Israël. Le soleil est revenu et peut-être que ça va nous apaiser un petit peu, je sais pas, il y a un rayon de soleil qui est apparu.
Une fois les cercueils rentrés en Israël, sur la place des otages, c'est en chantant que certains ont décidé d'honorer la mémoire des défunts. Pierre-Olivier, Tel Aviv, RFI.
Et le gouvernement israélien a dénoncé la mise en scène du Hamas à Khan Younes, qui, avant de rendre les dépouilles, a montré les 4 cercueils sur une estrade. L'ONU a dénoncé une mise en scène abjecte et cruelle. La Croix-Rouge a de son côté demandé une nouvelle fois que ces transferts se déroulent en privé. Des otages israéliens vivants doivent être libérés ce samedi. Hier, le Hamas s'était dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages restants dans le cadre de la deuxième phase de la trêve. Et puis, ce soir, on a appris que plusieurs bus avaient explosé dans une ville du centre d'Israël, Bat Yam. Selon la police, 3 bombes ont explosé, 2 autres sont en train d'être neutralisées. La police qui évoque un attentat terroriste présumé, selon plusieurs médias israéliens, les bus étaient vides et à l'arrêt. En Iran, au moins 975 personnes ont été exécutées l'an dernier. C'est ce que révèle un rapport publié par 2 ONG qui parle d'une escalade effroyable. C'est le chiffre le plus élevé depuis que ce recensement a commencé en 2008. Un chiffre qui, en plus, selon les 2 organisations, est très certainement sous-estimé puisque les exécutions, dans leur grande majorité, ne sont pas rendues publiques. RFI, minuit 4 à Damas. Après près de 14 ans de guerre, la reconstruction sera un des défis des nouvelles autorités syriennes. De nombreuses villes sont largement détruites, notamment celles qui ont été tenues par l'opposition, puisque les aviations russes et syriennes les ont bombardées pour les reprendre. Et dans la plupart de ces villes devenues des champs de ruines, le régime de Bachar el-Assad n'avait pas lancé de programme de reconstruction. Une exception, la vieille ville d'Alep, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Mais depuis la chute du régime Assad, là aussi, les travaux sont à l'arrêt. Reportage à Alep de Bertrand Éclair et Guilhem Delteil avec Ahmad Al-Khalfa.
Dans les anciens quartiers tenus par l'opposition, les destructions sont telles que les décrire semblent impossibles à Abdelrazak Kana. Et c'est en rigolant que ce marchand de coiffe bédouine se tente à l'exercice.
C'est indescriptible. Des destructions partout, des destructions. Les marchés de la vieille ville étaient en ruine. Les bombes avaient tout fait exploser.
Abdelrazak Kanaa entame une longue énumération des quartiers détruits. Le marché aux vêtements, au coton, au savon. Le marché des parfumeurs, des tailleurs. La vieille ville d'Alep a été reprise par le régime en 2016, mais les commerçants ont encore dû patienter, se souvient Abdelkader El-Assayeh, jeune commerçant de vêtements.
Comme il s'agissait d'une zone classée, il était interdit de faire des modifications. Donc il a fallu attendre un plan de rénovation mis en place par des organisations sous la supervision des services gouvernementaux.
Mais à la chute de Bachar el-Assad, les travaux ont été suspendus. Le fonds qui les finançait était lié à l'ancien régime. Il a été dissous et la situation est au point mort, regrette Abdelrazak Kanar.
Pour le moment, aucun responsable n'est venu dans la vieille ville. Nous avons été rencontrer le nouveau gouverneur. Il nous a demandé d'être patients, mais on lui a dit que cela fait 13 ans que nous sommes patients. Tout est entre les mains de Dieu.
En ce mois de février, un chantier vient de reprendre, celui de la mosquée des Omeyyades. L'objectif affiché est de permettre une réouverture pour le début du Ramadan dans une dizaine de jours.
Un reportage signé Guilhem Delteil. Le rendez-vous était attendu après les insultes proférées ces derniers jours par Donald Trump à l'encontre de Volodymyr Zelensky. Le président américain a traité hier son homologue ukrainien de dictateur sans élection. Et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky recevait l'émissaire de Donald Trump, Keith Kellogg. Il a plaidé pour des relations solides entre l'Ukraine et les États-Unis qui profitent au monde entier, qualifiant sa réunion avec l'émissaire américain d'extrêmement productive. Pendant ce temps, à Washington, le ministre des Finances affirmait que les États-Unis étaient prêts à durcir ou à alléger les sanctions qui visent la Russie en fonction de la tournure que prendront les discussions sur l'Ukraine. Les États-Unis qui ont décidé de réduire le fonds d'aide aux survivants des attaques du 11 septembre. Une décision du DOGE, le ministère de l'efficacité gouvernementale chargé de faire des économies et dirigé par Elon Musk. Une décision qui a provoqué des critiques et c'est suffisamment rare pour être noté au sein du Parti républicain. 20% du personnel du programme qui s'occupe des soins de santé aux victimes du 11 septembre va être limogé. Théo Renaudon.
Ce programme de santé fournit des soins gratuits à plus de 125 000 survivants et secouristes des attentats du 11 septembre 2001, et ce, en théorie, jusqu'en 2090. L'annonce de réduire le nombre de personnels provoque un tollé chez les démocrates, mais aussi vraisemblablement donc chez certains républicains. 7 membres du Congrès ont écrit une lettre à Donald Trump, ils s'alarment des conséquences sur les malades. Les élus exhortent le président américain à réembaucher le personnel licencié. Le programme de santé mène notamment des recherches scientifiques sur les maladies des secouristes du 11 septembre. C'est justement ce personnel, pompier, qui est chargé de ces recherches et qui a été en partie licencié, leurs études étant jugées non essentielles par le DOGE. Faux, répond le médecin-chef du département concerné, sans cette étude, impossible de démontrer, dit-il, les conséquences des attaques du 11 septembre sur la santé des secouristes 23 ans plus tard.
En France, la loi d'orientation agricole a été définitivement adoptée au Parlement, in extremis, avant le salon de l'agriculture qui commence ce samedi. L'objectif était de répondre à la grogne du secteur, une loi largement adoptée mais critiquée par la gauche qui fustige des renoncements environnementaux. Toujours en France, le Sénat a voté la proposition de loi interdisant le mariage aux étrangers en situation irrégulière. Un projet soutenu par les ministres de l'Intérieur et de la Justice qui s'étaient récemment prononcés en faveur d'un changement de la loi et qui avait soutenu le maire de Béziers, Robert Ménard, poursuivi pour avoir refusé de célébrer un mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière. Le texte a été adopté ce jeudi par le Sénat, 227 voix pour et 110 contre. Donald Trump, vous le savez, fait donc pression pour obtenir un accord de paix en Ukraine. Le constructeur automobile français Renault commence déjà à penser à un éventuel retour en Russie. C'est en tout cas ce que laisse entendre le PDG du groupe, Luca De Meo, interrogé par le Financial Times, Agnieszka Kumor.
Avant l'invasion russe de l'Ukraine, Renault est l'un des constructeurs automobiles étrangers les plus prospères en Russie. Et ce, grâce à son alliance avec Avtovaz, le géant russe fabricant des Lada, voiture star de l'époque soviétique. Mais en mai 2022, le groupe français doit vendre ses actifs ainsi que sa participation de 68% dans Avtovaz pour un rouble symbolique. Il conserve toutefois une option de rachat de sa participation dans la maison mère de Lada pendant 6 ans. Aujourd'hui, le constructeur n'exclut pas d'utiliser cette option pour retourner en Russie où, avant la guerre, il réalisait un dixième de son chiffre d'affaires. Les raisons de ce possible retour seraient purement économiques, selon le PDG de Renault. Après les bénéfices records en 2024, qui font exception dans le secteur automobile européen en crise, le groupe souhaite conforter ses performances grâce notamment à sa nouvelle gamme de voitures et ses réductions de coûts.
Le conflit entre la société britannique DAZN, le principal diffuseur des matchs de foot de Ligue 1, et la Ligue de football professionnelle se durcit. La plateforme de streaming réclame maintenant 573 millions d'euros à la Ligue devant le tribunal du commerce de Paris.